Mercredi 21 mai, l'info sur RMC. RMC, info, talk, sport.
RMC, il est 9h. Le journal Adrien Borne.
Et pour commencer, cette information tombée il y a moins d'une heure, la richissime héritière monégasque Hélène Pastor a succombé cette nuit à ses blessures. Elle était hospitalisée depuis le 6 mai dernier après une fusillade, Quentin Pommier.
Oui, Hélène Pastor, 77 ans, a été prise pour cible par un tireur muni d'un fusil de chasse à Canoncier, d'après les premiers éléments de l'enquête. Dans la soirée du 6 mai, elle se trouvait devant l'hôpital Larchet de Nice pour rendre visite à son fils. L'homme a tiré deux fois en direction de l'héritière monégasque. Son chauffeur, qui était à ses côtés, a également été blessé par balle. Il a succombé à ses blessures 4 jours après la fusillade. Une information judiciaire est en cours. Elle devrait être requalifiée en assassinat. Le tireur et son complice n'ont toujours pas été retrouvés.
C'est l'heure des comptes après les révélations du canard enchaîné. Une seule question: qui va payer pour la bévue des TER? Près de 2000 rames. Trop large, si bien qu'il faut raboter 1300 quais dans tout le pays. Un fiasco qui pourrait coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais le président de l'Assemblée des régions de France, Alain Rousset, refuse de donner un centime. Il l'a dit ce matin sur RMC. Et dire que tout se joue à quelques centimètres.
L'interstice est relativement faible. Sauf oui. Que, imaginez, on peut pas faire arriver des trains tout neufs avec des grincements énormes. L'équipe qui a commandé les trains n'est pas celle qui s'occupe des voies. N'est pas celle qui s'occupe des plateformes. Le responsable, c'est la SNCF et RFF. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il va y avoir, je sais pas, entre 60 à 80 millions de travaux. Il n'est pas question pour que les régions participent à cela.
Alain Rousset qui est revenu aussi sur l'avenir des régions françaises. Elles n'échapperont pas à la fusion, à des regroupements pour simplifier le millefeuille territorial. Et justement, sous l'impulsion de Ségolène Royal, les patrons des régions des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes prennent position en faveur d'une unification de leurs deux régions. Comme on pouvait s'y attendre, les débats sont musclés à l'Assemblée sur la proposition de loi famille. Hier soir, la majorité a adopté l'article 7 qui instaure la double résidence, la double adresse pour un enfant dont les parents ont divorcé. Les députés ont également mis en place le principe d'une amende jusqu'à 10 000 euros pour un papa ou une maman qui ne respecterait pas les décisions de justice quand l'un d'eux, par exemple, ne respecte pas le droit de visite. Une amende avec des garde-fous tout de même, assure la ministre Najat Vallaud-Belkacem.
Désormais, pour les actes de la vie courante, il faut que les deux parents puissent avoir donné leur accord. Fort heureusement, je le dis ici, nous avons réussi à introduire un certain nombre d'exceptions à ce principe. Par exemple, nous permettons à la mère qui a été, par exemple, victime de violence de la part du père de déménager avec son enfant sans forcément avoir l'autorisation du père en question. C'est une discussion parlementaire qui va durer. On n'est qu'en première lecture. Sur des sujets aussi délicats que cela, j'aimerais tellement qu'il y ait un esprit constructif au Parlement.
Najat Vallaud-Belkacem à l'instant sur RMC et BFM TV face à Jean-Jacques Bourdin. Petite fraude et grands effets. Pour la première fois, l'UFC que choisira testé 10% des opticiens français. Résultat sans appel, 1 sur 5 propose spontanément aux clients de tricher pour être mieux remboursé par sa mutuelle. Technique classique: gonfler le prix facturé pour les verres et baisser celui de la monture. Au-delà des abus des uns et des autres, c'est tout un système qu'il faut revoir, estime sur RMC ce matin Alain Bazot, le président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
Il faut bien voir qu'on est dans un système complètement pervers, puisque les prix sont libres. De plus en plus, les complémentaires ont proposé à leurs clients de rembourser toujours plus les lunettes. Puisqu'on rembourse toujours plus, eh bien, le prix des lunettes verres et montures augmente, même de façon complètement artificielle. Le marché de la lunette n'a plus de rationalité du tout.
Enfin, deux exceptions, Benzema et Varane, hormis les deux joueurs du Real Madrid qui vont participer à la finale de la Ligue des Champions ce soir. Le gros des troupes de l'équipe de France sera réuni à Clairefontaine pour préparer le mondial. La bourse de Paris, à l'ouverture, elle est en baisse, moins 0,30% à 4438 points. Il est 9h04, Jean-Jacques.
Oui, 9h04. Allez, vous réagissez. Vous avez écouté Najat Vallaud-Belkacem. C'est fatigant parfois, hein, mais la dernière fois j'avais été épuisé déjà, mais je le suis encore un peu plus, à chaque fois encore un peu plus, donc il arrivera un moment où je le serai tellement que nous changerons d'invité. Il est 9h04, vous êtes sur RMC, Charles
beaucoup
Magnin.
De sujets qui vous font réagir ce matin, les fraudes des opticiens qui proposent aux clients de tricher pour optimiser leur remboursement de mutuelle. Tiens, vous êtes opticien, venez vous défendre, tout simplement, si vous avez bénéficié de ces petits arrangements Vous n'hésitez pas à venir témoigner. On parle aussi de cette erreur de la SNCF et de RFF qui ont commandé près de 2000 nouvelles rames de TER qui se révèlent tout simplement trop larges pour les quais de gare. Vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet.
Alors c'est avec plusieurs remarques, notamment la remarque de l'un de nos auditeurs, pleine de bon sens, que j'ai faite d'ailleurs à Alain Rousset, le président de l'association des régions. C'est embêtant. Bon d'accord, on va raboter pour faire entrer dans les gares les nouveaux trains, mais les anciens, eux, si j'ai bien compris, il y aura... Ben oui, les anciens trains, il y aura un espace, alors un écart. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Non mais c'est vrai que ça... Bon, les travaux ont commencé dans certaines gares.
Et puis puisqu'on parle de région, Ségolène Royal annonce que les régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire envisagent de fusionner. Vous habitez peut-être une de ces deux régions. Êtes-vous favorable à cette fusion ? Vous venez nous le dire au 32-16. Puis cette question des matchs de la Coupe du Monde qui ne seront pas tous diffusés sur des chaînes gratuites, vous êtes très nombreux à réagir et à être tout simplement choqués.
Là encore, Najat Vallaud-Belkacem n'a pas répondu. Elle ne s'est pas mouillée. Elle s'est à peine mouillée sur la fessée. Et encore, elle a fallu aller la pousser dans ses retranchements. Mais c'est pénible. Non, mais c'est pénible. C'est pénible. C'est pénible. Bon, moi, j'en tirerai les conclusions. Raphaël est dans le Puy-de-Dôme. Raphaël nous dit, au lieu de faire des travaux sur tous les quais qui en ont besoin pour accueillir les nouveaux trains, pourquoi ne pas faire une sorte de redistribution des trains afin que certaines régions n'utilisent que les nouveaux trains et d'autres régions les anciens trains ? Ben oui, ça serait bien, alors. Mais Raphaël, c'est-à-dire qu'il y aurait de pauvres régions qui n'utiliseraient que des trains vétustes et d'autres qui n'utiliseraient que des trains neufs. Bon, c'est pas bien ça, non ? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez des idées ? Vous avez des idées ? Si vous voulez intervenir sur ce sujet, parce qu'il faut dire, que ça, c'est l'exemple même des bêtises administratives, pas qu'administratives. C'est un système rocambolesque. C'est ce que dit même le ministre Frédéric Cuvillier. Il dit c'est un système rocambolesque. C'est vrai que entre Réseau Ferré de France, la SNCF, alors chacun se rejette la balle. La SNCF, on les entend pas, ils sont discrets là. Mais entre Réseau Ferré de France, la SNCF, les régions qui disent non, on ne paiera pas. Vous avez entendu Alain Rousset. Je les comprends parce que les régions, pour une fois, n'y sont pour rien. Là, vraiment, franchement, 9h07. Allez, d'autres sujet encore, Charles.
Non, mais je vais vous lire la petite remarque de Paola sur le sujet de la SNCF et des RFF. Paola, qui est à Nice, nous dit « Le problème avec ces trains trop larges, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui prennent les décisions et les mêmes personnes qui payent. Et oui, l'argent n'est pas là où sont prises les décisions. Je voudrais bien savoir si quelqu'un a déjà tenté d'acheter de l'électroménager personnel sans bien regarder si cela allait rentrer chez lui. Eh bien, c'est le même principe. On n'achète pas quelque chose si on sait que ça ne marchera pas.
Bon, on parle du foot, si vous voulez. La Coupe du Monde, évidemment, le Brésil. Allez-y, 32-16-RMC.fr. Non seulement à travers la télévision, mais aussi à travers... Ah tiens, ben Rémo est à la retraite, il est dans le Val d'Oise. Bonjour Rémo.
Jean-Jacques, bonjour.
Ça va, mon cher Rémo ?
Merci de vos émissions, elles sont très très intéressantes.
Ben, merci Rémo, vous savez, moi je dis ce que je pense. Par exemple, je vais alimenter le débat, et tant pis, je vais m'engager, je suis contre le fameux traité entre l'Union Européenne et les États-Unis. Cette négociation qui me paraît absolument inutile, on essaie de me démontrer le contraire, mais enfin, j'ai pas encore compris l'utilité de cette négociation, et dans une négociation, on va bien être obligé de céder sur certains points. Alors j'aimerais savoir, et j'aimerais poser la question à ceux qui négocient, j'aimerais savoir sur quel point on est prêt à céder. Ça, j'aimerais savoir quand même. Rémo, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Eh bien, d'une part, je comprends que vous soyez exténué.
Oui, ça, je suis parfois exténué.
Après l'entretien que vous avez eu avec notre ministre des Sports.
Oui, elle est ministre de la Ville, des Sports, du Droit des Femmes et de la Jeunesse.
Elle a répondu à aucune de vos questions. Je trouve ça vraiment lamentable.
Elle ne se mouille pas, quoi.
Elle ne se mouille pas. De ne pas pouvoir admettre qu'une Coupe du Monde de football doit être accessible à tous les téléspectateurs du monde entier, je trouve ça honteux. Et que elle n'est pas de la droite, parce qu'on sait que Bein Sports, c'est le Qatar. Donc si c'était quelqu'un qui voulait préserver un poste de ministre issu de la droite, je comprendrais son attitude, mais en étant de la gauche, et puis même de laisser déjà sous-entendre qu'en 2016, l'euro, une partie des matchs pourrait être revendue à Bein Sports, je trouve ça vraiment scandaleux.
Bien Rémo, merci.
Bonne journée.
Bonne journée Rémo, merci. Alors, Abdallah. Travaille à la SNCF. Allô. Ah ben, ingénieur dans les Yvelines, ça tombe bien. Bonjour Abdallah.
Allô.
Bon, et allô.
Vous m'entendez bien?
Ben oui, je vous entends.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour, bonjour à tout le monde.
Vous êtes ingénieur en fait, à la SNCF, Abdallah?
Oui, oui. Bon. Donc, je voulais revenir, moi, c'était sur...
C'est cette fameuse histoire,
oui. Ouais, donc en fait, on entend le président de région donc qui dit qu'il ne payera pas. Et...
Oui.
Donc il faut savoir que les trains ont été commandés par eux, oui. Par les régions.
Oui, ça,
donc,
oui.
Il faut savoir aussi qu'on a en fait des gabarits sur le réseau ferré national. Donc en fonction des types de trains, que ce soit voyageurs, fret, convois exceptionnels, on a des gabarits à respecter. Et donc eux, quand ils ont commencé à commander, donc à lancer le projet, ils ont demandé les plans à RFF et SNCF, donc des gabarits. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout de suite passé commande et qu'ils n'ont pas pris en compte une marge de sécurité qui est toujours prise par la SNCF. Donc les trains ont été commandés et puis donc le résultat, voilà, il est là.
Non mais Abdallah, vous allez pas rejeter quand même la faute sur les régions là.
Non mais moi ce que je comprends pas, est-ce que je
qui gère les régions en... Les régions disent nous ne sommes même pas au conseil d'administration nulle part, alors que c'est nous qui payons les rames. Abdallah, réseau ferré de qui a en charge les quais? C'est réseau ferré de France ou c'est SNCF?
Bah, ça appartient au... Comment ça s'appelle? Le réseau ferré national appartient à RFF.
À RFF. Non, mais il y a une séparation entre la SNCF et RFF. SNCF, c'est le côté commercial, et RFF, c'est le côté... tout ce qui est l'infrastructure.
La SNCF est le gestionnaire délégué, en fait, par RFF. Si vous voulez, on fait la maintenance pour RFF. Mais le souci, c'est que moi, ce que je conteste, c'est que de remettre tout sur la SNCF, tout de suite.
Mais non, on n'a pas remis sur SNCF.
Bah,
je pense que les premiers fautifs...
C'est de la faute. Là, moi, ce que je comprends quand on lit l'article sur le canard enchaîné, c'est clairement c'est la faute de la SNCF. En fait, je pense que c'est peut-être plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué que ça.
Et, en fait, on ramène des choses comme quoi on aurait bougé des rails. Il faut savoir... Les rails, on le fait souvent, ça, de bouger des rails de quelques centimètres du quai ou par rapport à une autre voie. C'est en fait, à force d'avoir des passages de train sur les voies, on a les voies qui se tassent, qui bougent, avec aussi les conditions climatiques. Donc, on est amené souvent à repositionner les voies. Donc, en fait, on utilise des opérations de maintenance courante. Ben, on remet ça, on ramène ça sur le souci des quais. Donc, voilà, en fait, on a vu, ils ont déplacé des rails, etc. Alors que c'est quelque chose de tout à fait banal qu'on fait souvent. Moi, il n'y a pas longtemps, on l'a fait. Voilà, on avait fait une opération de maintenance. Et ben les rails, on les a un peu décalés. Ça arrive. Mais c'est pas,
Oui, non, mais Abdallah, ça, on est bien d'accord. Mais ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des pouvoirs de décision disséminés, que cette bêtise. Franchement, Abdallah.
De toute façon, il y a des ingénieurs qui s'occupent. Donc, de passer commande d'un point de vue technique, après on a les acheteurs, après on a plusieurs services.
Mais
donc
ouais.
Peut-être, je pense qu'il y a un sujet à creuser et je veux dire à optimiser le process. Ça, on est tous d'accord. Mais je veux dire, vous savez très bien, la SNCF c'est une grande entreprise. On peut pas réformer ça du jour au lendemain. Donc maintenant, ce que je comptais, c'est de tout remettre sur la SNCF.
Je comprends. Mais Abdallah, je voudrais poser une autre question. Ces rames sont donc un peu plus larges.
Oui.
On est bien d'accord.
Oui.
Mais les croisements de trains, alors?
Oui.
Avec des rames plus larges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir refaire les voies ou
les trains peuvent
continuer à se croiser?
C'est juste par rapport au pied, si vous voulez. Entre les voies, on est bon. C'est juste par rapport à certains quais. En plus, c'est pas tous les quais.
Il faut dire aussi que
dans la réfection de quais, attention, dans la réfection des quais qu'on voit un peu partout en France, il y a aussi des quais à remettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite.
Exact.
Donc, il faut pas oublier, on peut tout mettre aussi dans le même sac et après on fait tout passer sur le problème Régiolis. Donc, je pense que ça a nuancé et pas tout de suite à partir. On va dire comme ça, trouver un bouc émissaire, etc.
Le bouc émissaire.
Moi, je préférais poser les choses à plat, essayer de trouver, qui en tort. Certes, il y a peut-être une erreur, mais après, de là à remettre sur la SNCF ou RFF, je suis pas trop d'accord.
Bon, merci Abdallah. Jean-Claude, qui est conducteur de train dans le Rhône, a son avis, puisque lui conduit des trains. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Oui.
Bah moi, enfin, je suis pas trop d'accord avec le collègue là, cheminot. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que depuis des années, on voit la politique de l'entreprise, enfin, qui est voulue par les différents gouvernements, hein, qui va vers un éclatement de l'entreprise en X services, sous services, sous direction. On sait plus trop. La main gauche sait plus trop ce que fait la main droite. Et ça, nous, dans le quotidien, on le voit. Pour plein d'autres sujets que la largeur des rames. Alors moi, ça m'étonne pas du tout ce qui se passe.
Ah bon?
Ça m'étonne pas du tout.
Mais
vous
pourquoi?
Savez qu'à la SNCF,
oui,
il y a 40% de cadres. 40%. Alors voilà, on a créé des services, d'autres services, avec un chef de service, un sous-chef de service, et on se retrouve avec une espèce d'usine à gaz. C'est les gouvernements qui ont voulu ça, hein, pour enlever l'unicité de la SNCF, qui était très compétente il y a 10, 15 ans, 20 ans, sur tous les sujets.
Non, ça, mais le problème, c'est qu'à une époque, la SNCF gérait le commercial et les infrastructures. Mais
et
comme
ça
là.
Très bien.
Et ça marchait très bien.
Très
sauf
bien.
Que la SNCF était en gros déficit et que l'État, par un artifice, un artifice, a séparé les activités commerciales des activités infrastructures.
Voilà, et
confié à Réseau Ferré de France.
Et vous savez que les Allemands l'ont pas fait, ça. Nous, on l'a fait, les Allemands ne l'ont pas fait. Ils ont gardé leur Deutsche Bahn complètement intégrée, et ça marche très très bien. Et nous, on va de plus en plus vers... Mais dans le quotidien, je pourrais vous prendre plein d'exemples. Dans le quotidien, il y a plein d'exemples où alors, vous avez tel service, et ben non, non, tel autre service peut pas, parce que ben, c'est plus la même direction, parce que... Et au final, et ben écoutez, soit on privatise... Moi, je dis dans ce cas-là, soit on privatise carrément la SNCF, mais il faut arrêter de créer, de développer cette usine à gaz... Avec des X directions, 40% de cadres. Vous rendez compte, une entreprise dans le privé qui a 40% de cadres, si t'es en une, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà.
Bon, eh ben merci.
Merci à vous, Jean-Jacques.
Merci, Jean-Claude. Bonne journée. Allez, on va passer à autre chose. 9h16, tiens. Un petit détour par le mondial avec Michael, qui est ingénieur à Paris. Bonjour, Michael.
Bonjour, Jean-Jacques.
Alors, qu'est-ce que... Vous êtes favorable à ce qu'on ne diffuse pas tous les matchs sur les chaînes publiques ou les chaînes gratuites, hein. C'est pas forcément des chaînes publiques, hein.
Exactement. Pour la bonne et simple raison que, pour moi, ceux qui vont regarder les matchs autres que l'équipe de France...
Oui.
En France, hein, pour moi, ce sont vraiment les fans de football.
Oui.
Donc, quand on est fan de football, on a normalement l'abonnement Canal+, ou Bein, ou les deux. Qui est mon cas en fait. Et en gros, si on aime vraiment le football, on regarde le football toute l'année, on n'attend pas un événement planétaire comme la Coupe du Monde ou l'Euro 2016 qui sera en France d'ici deux ans, pour regarder du football. Donc pour moi, normalement, c'est tout à fait logique que ce soit les abonnés qui soient privilégiés pour regarder par exemple l'Uruguay-Italie, l'Angleterre-Italie qu'il va y avoir, ce genre de choses, surtout que l'horaire des matchs. Les horaires des matchs seront 18h, 22h, voire un peu plus tard. Et si on n'est pas passionné de football, j'imagine pas que les personnes qui n'aiment pas le football ou qui regardent que le football pendant la Coupe du Monde veilleront ou rentreront plus tôt du travail pour regarder ces matchs. Voilà pour moi. Bon, après, c'est ma logique.
Vous dites que les passionnés de football n'ont qu'à payer.
Exactement. Exactement.
Leur passion, pour leur passion.
C'est ça.
Soyons clairs.
Et nous, toute l'année. Et...
Bon. Donc, si, mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Évidemment que c'est un point de vue. Merci, Michael.
Je vous en prie.
Merci, Michael. Point de vue qui est partagé par certains auditeurs, pas par tous. Vous allez comprendre, n'est-ce pas, Charles?
Tous vos témoignages, d'ailleurs, sur Bourdin Direct, évidemment, sur cette question de la Coupe du Monde, mais on parle aussi, tiens, des fraudes des opticiens qui proposent aux clients de tricher pour optimiser leur remboursement de mutuelle.
Les
Alexandre.
Opticiens, on va en parler. Pourquoi y a-t-il tant de magasins d'optique en France?
Alors que la demande n'augmente pas aussi fortement, Alexandre, lui, nous précise que ce système de triche existe aussi pour les lentilles. Pour se faire rembourser les produits associés, eh bien, le prix des lentilles est artificiellement gonflé et les produits complémentaires vous sont offerts et donc remboursés. Voilà ce que nous dit Alexandre. Vous aussi, vous témoignez jusqu'à 10h32-16 rmc.fr. Francis, lui aussi, témoigne sur cette question de l'optique et nous dit « J'ai fait le test moi-même. Je suis allé voir plusieurs opticiens en leur disant que je n'avais pas de mutuelle et tous m'ont fait un devis avec un prix à peu près correct. J'y suis retourné en disant que j'avais une mutuelle et tout de suite les mêmes devis ont grimpé de 15 à 40%. Clairement, les opticiens se font du beurre sur le dos des mutuelles et donc par conséquent des Français. » Voilà ce que pense Francis. On parle aussi de l'erreur de la SNCF et de RFF qui ont commandé, rappelons-le, près de 2000 nouvelles rames de TER qui se se révèle trop large pour les quais de gare. Jean-Pierre nous dit une armée d'ingénieurs et de techniciens à la SNCF et RFF pour un pitoyable résultat. Et qui va payer pour les bêtises de certains? Les citoyens, comme d'habitude, les limites du système sont encore franchies. Et puis ces matchs de la Coupe du Monde qui ne seront pas tous diffusés sur des chaînes gratuites, est-ce que ça vous choque? Pas vraiment quand on lit le mail de Patrick qui dit « Il ne faut pas dramatiser l'équipe de France et les grands matchs seront visibles gratuitement. Pour les matchs moins prestigieux, c'est normal que les fans de foot fassent l'effort de payer. » Vous aussi, vous réagissez au 32-16 et sur rmc.fr jusqu'à 10h.
RMC jusqu'à 10h, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, j'ai plusieurs messages à vous lire qui vont vous faire sourire pour certains, qui vont vous affliger, oui, enfin vous affliger. Les remarques sont de bon sens, elles sont affligeantes pour beaucoup de responsables. Daniel, par exemple, qui est à Condrieu. Condrieu, ça sonne à nos oreilles, ce mot de Condrieu. Ça résonne, là. Ça résonne, un bon petit Condrieu le matin, là, tiens. Ah là là là. Bon, alors, Daniel nous dit l'apprentissage, l'apprentissage. Vous êtes manuel, vous êtes un cancre dans ce pays. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans ce pays, on encourage à faire des études pour pouvoir gagner plus d'argent, alors qu'en travaillant de ses mains, ben, on gagne peut-être plus d'argent. Hein? Peut-être, mais oui, 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 oui. C'est vrai qu'on n'arrive pas à sortir de la tête des parents, des enseignants, enfin de certains, pas de tous, encore une fois, on ne va pas généraliser, mais de cet état d'esprit selon lequel le travail manuel n'est pas noble. Voilà. Alors que, ça change, ça évolue petit à petit, mais ce pays est tellement conservateur. Paola, qui nous dit, nos femmes et nos hommes politiques ont-ils tous fait l'école du cirque ? Ils nous parlent tous de trouver l'équilibre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très doués, vu les différences de traitement subies par de nombreux Français. Ça, je suis assez d'accord. Oui. Ça, évidemment, l'école du cirque, l'équilibre, c'est vrai, c'est un mot, ça, vous savez, l'équilibre. Oui, on veut trouver l'équilibre. Mais ça me fait sourire, ça vous fait sourire, mon cher.
Oui, ils passent souvent beaucoup de temps à chercher l'équilibre, oui, trouver un accord.
Bon. Pierre, oui, c'est vrai. Charente, Pierre est à Mornac. Les TER commandés sont plus larges de 20 cm par rapport aux anciens. C'est donc 10 cm de chaque côté. Alors d'un côté, on rabote les quais, mais une question, pourront-ils se croiser ou vont-ils se frotter lorsqu'ils se croiseront? Non, alors apparemment, non. Non, ils peuvent passer l'un à côté de l'autre. Bon, et puis Pierre a une idée qui n'est pas stupide du tout. On vote pour les européennes dans 8 circonscriptions. Aucun politique n'a, sauf erreur de ma part, contesté ce découpage. Mais pourquoi ne pas s'en servir de base pour redécouper les régions? Mais bravo Pierre, mais ça ce sont des idées simples de bon sens. Mais qui y pense? Mais non, c'est trop simple. Non, c'est beaucoup trop simple, il faut compliquer les choses. Beaucoup trop simple. Alors lui, Clément nous écrit d'Irlande. Et Clément nous dit, si le foot passe sur une chaîne payante, pas de problème. Mais je n'ai aucun problème, moi, le streaming, ça existe. Foot, rugby, hockey sur glace, tout y est. Moi, j'ai pas de problème, hein. C'est Clément qui nous écrit d'Irlande. Ben, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a, Charles?
Ça demande quand même quelques compétences en informatique, c'est pas, mais c'est vrai, c'est vrai.
Je suis d'accord. Alors, j'ai Julien qui est employé dans l'Isère qui nous met les lunettes. Oui, grâce à ma mutuelle. Non seulement j'ai droit à mes lunettes, mais j'ai droit à 2 paires de lunettes de soleil, à mes lentilles. J'ai même pu en prendre une pour ma copine, tiens. Une paire de lunettes. Ah! Eh ben, on va parler des lunettes. Tiens, avec Olivier qui est opticien en Saône-et-Loire. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Loin de moi l'idée de jeter la pierre dans le jardin des opticiens, je me pose simplement une seule question, Olivier, et vous allez peut-être m'aider à répondre. Pourquoi y a-t-il tant de magasins d'optique en France?
En fait, il y a beaucoup de magasins, mais la concurrence est saine dans notre métier. Ça nous permet de réguler les prix. S'il y avait 2 ou 3 magasins par ville, ça ferait monter les prix. Ouais. En aucun cas, la concurrence fait augmenter les prix.
Oui, mais les prix sont parmi les plus chers d'Europe, Olivier.
Après, on a quand même le travail, on a beaucoup de charges aussi.
Oui, mais ça, j'imagine.
Vous savez bien que les impôts en France font partie des impôts les plus élevés aussi. Donc, c'est répercuté. Et après, au niveau des coûts des lunettes, il y a tous les coûts possibles. On est avec toute la concurrence, chaque magasin a des forfaits entre 29 euros et 700 euros pour des lunettes. Mmh. Donc après, forcément, si les gens veulent des choses de haute qualité, les lunettes seront plus chères qu'en Roumanie, en Italie, des choses comme ça.
Oui.
Donc c'est pour ça, par rapport à ce que vous disiez avec la personne qui est venue sur 60 millions de consommateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à leur enquête, nous, quand un client vient au magasin, c'est assez rare qu'il connaisse son remboursement de lunettes. Oui. Donc on ne peut pas modifier le prix de la monture et des verres. C'est sûr que dans l'enquête, vu comment c'est présenté, la personne sait ce qu'il est remboursé. Donc ça, c'est une incitation pour l'opticien à changer le remboursement, les montants entre le verre et la monture.
Oui.
Donc c'est pour ça l'étude est quand même faussée, étant donné que nous, en magasin, au quotidien, on ne connaît pas réellement le remboursement entre la monture et les verres.
Oui. Charles, vous faites le nom de la tête, pourquoi? Mais impliquez-vous, Charles.
Ah bah parce que moi, je ne connais absolument pas, je ne connaissais pas quand je suis allé me faire faire pour la première fois des lunettes, mais justement mes droits de remboursement. Je suis allé chez l'opticien, je lui ai dit voilà, moi j'ai une mutuelle qui s'appelle comme ça ou comme si, et il m'a dit bah ne bougez pas, je vais leur passer un coup de fil et je reviens vers vous. En effet, il m'a laissé 5 minutes et il est revenu en me disant vous avez le droit à ça et à ça, mais on va magouiller un peu pour faire en sorte que voilà, vous ne payez rien à la fin, ouais, même si je vous fais des montures beaucoup plus chères que celles auxquelles vous avez droit.
Oui, mais c'est comme tout, il y a toujours des abus dans toutes les professions.
1 sur 5, après... d'après l'enquête d'un opticien sur 5, ce n'est qu'un opticien sur 5, cela dit, bah, ça fait que 20%.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire déjà, c'est, 20, oui. C'est que 20%, oui. Et il y a beaucoup de mutuelles maintenant qui ne répondent plus par téléphone. Ils ne disent plus au remboursement qu'on a le droit par téléphone.
Alors attendez, Olivier, restez avec nous parce qu'Isabelle est opticienne dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, voilà, je suis d'accord avec ce qu'Olivier vient de dire. C'est tout à fait vrai. Effectivement, de plus en plus de mutuelles, si je reprends sur le dernier argument, ne donnent plus leur remboursement donc par téléphone, de façon à ce que les opticiens ne puissent pas modifier les factures. Et c'est vrai que je suis très étonnée, moi, par l'étude de M. Bazot, qui est quand même un magazine assez connu. Enfin, son enquête me semble vraiment, moi, incomplète et voire même très orientée. À se demander si c'est pas les mutuelles qui ont orienté cette enquête. Alors, c'est sûr, hein, on le sait, il y a toujours eu des opticiens qui ont magouillé, il y en a qui sont comme ça. Et en fait, contrairement à ce qu'a dit M. Bazot, c'est pas des indépendants qui magouillent le plus, c'est souvent les grands groupes qui, eux, sont souvent des groupes financiers et qui sont pas vraiment opticiens à la base. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment de savoir qu'est-ce, c'est pas du tout d'adapter l'équipement en fonction des besoins de la personne, hein, déjà. Donc, c'est très différent par rapport à un indépendant qui, lui, ben quand même, il a qu'un magasin en général et c'est quand même son gagne-pain et il a pas intérêt à trop décevoir ses clients s'il veut pas que la clientèle parte à la concurrence. Donc
oui, mais justement, Isabelle, voilà. La concurrence c'est bien, tout le monde est d'accord, sauf qu'il arrive un moment, où il y a tellement d'opticiens, de magasins d'optique, vous le savez bien, Isabelle.
Oui, c'est sûr.
Le problème, c'est que ça bascule. La concurrence, tout le monde est pour.
Premier. Oui, c'est sûr. Mais nous aussi.
Il y a tellement que vous êtes obligé de vivre, que vous devez vivre, vous comprenez?
Écoutez, nous, vous voyez, finalement, moi je suis dans un magasin donc indépendant, qui est quand même là depuis très longtemps. Et on a des clients. Alors moi je vais vous citer un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. Un client qui avait l'habitude de venir chez nous, a voulu partir à la concurrence, qui est pas très loin de chez nous et qui fait partie justement d'un grand groupe financier, etc., qui eux, c'est vraiment le tiroir caisse. Ça faisait donc un an et demi qu'il avait fait ses lunettes et qui est revenu. Alors il me dit, je sais que chez vous, je vais les payer plus cher. Ouais. Mais au moins, je ne les changerai pas 6 fois dans l'année. Parce que, il avait des anti-reflets. C'est toujours pareil. Tout a un coût, tout a un prix. Ça, il faut vraiment que les gens les croient.
Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher, finalement, dans une paire de lunettes? Les verres ou les montures?
Moi, je dirais les deux. Oui, parce que vraiment, on peut avoir... Ça dépendra de la qualité de la monture, donc la fabrication de la monture. Malheureusement, c'est vrai, alors c'est pas pour défendre 100% le français, mais si vous prenez une fabrication française, c'est sûr que vous allez la payer beaucoup plus cher. C'est une monture, il va falloir...
Combien ça vaut une monture française?
Française, minimum 250€.
Bon, et des verres,
Alors, si on prend le cas des verres, simplement pour corriger une vision de près ou une vision de loin, vous pouvez en avoir à partir de 29€, le verre, sans aucun traitement, traité et fabriqué en France.
Ça fait 250 plus 60€, égale 310€. Bon, voilà. Le remboursement, les mutuelles remboursent plus. Les mutuelles peuvent rembourser plus.
Il y a des mutuelles qui remboursent plus, il y en a d'autres qui remboursent moins. s'en oublie de le dire, ou si on a l'impression que les mutuelles sont hyper généreuses.
Ben, Charles me dit j'ai droit à 200 euros par verre, c'est ça, Charles?
Non, moi j'ai droit à 200 euros pour les montures et 200 euros pour les verres, sauf que les verres que je porte valent 30 euros, et l'opticien, c'est vrai, une grande chaîne, m'a dit, bah écoutez, je vous mets les verres à 30 euros, voilà. Mais les 170 qui restent, on va les faire basculer sur la monture, en tout, vous allez payer 400 euros, mais officiellement, aux yeux de votre mutuelle, vous aurez payé 200 pour les verres, 200 pour la monture. Et du coup, j'ai une monture beaucoup plus chère que celle à laquelle j'ai le droit, sans payer de ma poche.
Alors, on sait qu'il y a des opticiens qui le font, mais là, ils courent un grand risque. Parce que nous, quand... alors, je ne sais pas si lui on fait le tiers payant ou pas, parce que c'est toujours pareil, si le client se fait rembourser, c'est vrai que l'opticien, il est un petit peu protégé. Par contre, la mutuelle, il faut savoir, et nous, on avertit les clients, quand ils font ça, le client se rend coupable de fraude à sa mutuelle. Donc, il encourt des poursuites par sa mutuelle.
Je m'en rends compte après coup, parce que moi, chez l'opticien, je suis rentré les mains dans les poches, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai une mutuelle qui s'appelle comme ça, j'avais juste mon attestation de mutuelle. Je lui ai dit, voilà, moi je sais que j'ai une bonne mutuelle et j'aimerais juste ne pas payer. Il m'a dit, très bien, on va vous faire des lunettes, vous ne dépenserez pas 1 euro et je sais que j'ai des lunettes qui valent le plafond maximum de ma mutuelle. Et à aucun moment, on m'a dit que j'étais en fraude, etc. Je m'en suis rendu compte après.
Alors, si vous étiez venu chez nous, on n'est pas exceptionnel, mais chez nous ou chez d'autres, on va dire, nous on refuse, mais catégoriquement. Enfin, je vous assure que j'ai refusé 3 ventes.
Mais parce que vous faites votre boulot, Isabelle. Mais comme il y a beaucoup, il y a tellement d'opticiens. Non, mais Isabelle, il y a tellement de magasins d'optique qui se sont ouverts que certains, pour survivre, sont obligés de ne pas faire comme vous.
Regardez ceux qui se sont ouverts. Est-ce que ce sont des indépendants ou des grandes chaînes? Regardez bien ce qui s'ouvre beaucoup. En général, c'est toutes des grandes chaînes. Il faut voir. Parce que pour ouvrir un magasin d'optique, il faut déjà avoir des fonds.
Bien sûr.
Pour le stock des montures, c'est quand même important. Donc déjà, il faut avoir des fonds financiers importants. Donc c'est pour ça que, en fait, ce qui s'ouvre souvent, c'est vraiment des grandes chaînes. Moi, ce que j'aimerais pour en finir,
c'est
vrai qu'on critique toujours les opticiens, mais et si on regardait le côté mutuel, parce que quand vous voyez que depuis janvier 2014, vous avez plein de personnes qui arrivent en disant, écoutez, moi pas plus tard encore qu'hier, j'ai une personne, elle me dit, moi je suis remboursée 65 euros sur ma monture, donc je lui ai montré où elle pouvait avoir des montures à 65 euros, on fait la demande de tiers payant, et là qu'est-ce que je m'aperçois, elle est plus que remboursée 35 euros sur la monture.
Ah oui. Voilà. Oui, mais il y a mutuelle et mutuelle, c'est sûr.
Mais je vous assure, et moi j'aimerais que de temps en temps,
il y a ceux qui changent. Et puis Isabelle, il y a ceux qui changent tous les ans de lunettes alors qu'ils pourraient garder leurs lunettes un peu plus longtemps, ma chère Isabelle. Alors,
c'est vrai que ça, malheureusement, on a des personnes, ils estiment qu'ils payent tant par an de mutuelle, donc ils doivent.
Ça, c'est de l'irresponsabilité, pardonnez-moi, de l'irresponsabilité. Bien, merci Isabelle. Et vous êtes pris, évidemment. Mais je comprends entre les clients. Évidemment. Merci Isabelle, merci Olivier. Allez, il est 9h34. Vous continuez à parler de tout cela, vous continuez à intervenir. CRMC, c'est cette émission qui est la vôtre et que je défendrai tout le temps, quoi qu'il arrive. Bien, allez, il est 9h34, Charles.
Petite remarque qui vient d'arriver et qui m'a fait sourire sur le sujet de Daniel qui dit « Mon ex-copine s'est même fait faire un masque de plongée sous-marine adapté à sa vue en le faisant passer pour une monture remboursée 100% par sa mutuelle. » Voilà ce que nous dit Daniel. Alors, vous aussi, vous témoignez, n'hésitez pas.
Oui, je voudrais répondre au petit mail que m'a envoyé Nicolas. « Je suis en Serbie, nous dit-il. Je voudrais juste rappeler qu'en Serbie et en Bosnie, il y a des inondations que là-bas, dans notre pays, personne n'avait vu depuis 120 ans. Un petit message de soutien serait le bienvenu. Ben évidemment, nous soutenons toutes les populations qui souffrent, c'est vrai. Les images sont impressionnantes. La Serbie, la Bosnie, la Croatie sous les eaux. Il est 9h35.
RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin.
C'est à moi. Ben oui, je regardais mes tweets. Tiens, par exemple, cette pauvre Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce qu'elle ramasse, dites-moi, comme on dit, sur Twitter, sur mon compte Twitter, ça y va. Oh là là, aucune réponse aux questions. Oh là 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 là, je vois. Oh non, mais j'arrête parce que la pauvre, c'est trop, c'est trop. Faut se méfier aussi de Twitter, hein, parce que parfois c'est excessif, mais là c'est effrayant. Il est 9h37, j'ai rien contre elle, moi non. Mais je l'aime bien, Najat Vallaud-Belkacem. Mais le seul problème, c'est que ça fait deux fois qu'elle ne répond à aucune question. Alors donc, moi je veux bien, mais c'est pas la peine de venir. On va parler de foot dans un instant, mais je voudrais parler des européennes avec Laure. Laure, bonjour.
Oui, bonjour.
Laure, vous êtes en Seine-Saint-Denis, ma chère Laure.
Absolument.
Alors, vous dites, sur ce traité entre l'Union européenne et les États-Unis, il faut un référendum.
Enfin, pas forcément un référendum, mais c'était surtout sur un point particulier que
allez-y,
je voulais
allez-y,
intervenir.
Allez-y.
Sur les taux d'ouverture au marché public dont vous avez parlé,
oui.
Je trouve quand même un petit peu scandaleux.
Allez-y,
ça fait même partie des négociations, puisque je pense que ça fait effectivement partie des questions qui peuvent nous faire repousser l'Europe,
oui.
Puisque la France devrait quand même avoir la possibilité, sur ce point particulier, si les États-Unis, pays hautement libéral comme il se doit, n'ouvrent ses marchés publics qu'à hauteur de 30%, comment fait-il que la France, sans aucune négociation, d'aucune sorte, que l'Europe, elle ne devrait même pas avoir son mot à dire dans ce cas-là, les États-Unis n'ouvrent leur marché public qu'à hauteur de 30%,
oui.
Et bien la France devrait pouvoir, de façon totalement libère, elle est totalement libre, et elle est tout à fait libre de le faire, pourquoi n'a-t-elle pas la possibilité d'ouvrir ses marchés publics aux États-Unis à hauteur de 30%?
Non, je comprends ce que vous voulez dire, Laure, mais justement, l'objet, disent les négociateurs, hein.
Oui.
L'objet de ces négociations, c'est de permettre l'ouverture des marchés publics américains aux entreprises européennes.
Mais comme vous le disiez, si les États-Unis lâchent un peu sur ce point,
évidemment.
Qui à mon avis ne serait même pas à discuter, puisque ça n'est qu'une histoire de réciprocité logique. Si les États-Unis cèdent sur ce point, ça ne sera qu'au prix le Maestro Génie.
Vous avez raison. Vous avez raison, Laure. C'est ce que je dis depuis le début.
Absolument.
Je dis, si on cède d'un côté, forcément, si on veut obtenir, on est obligé de céder.
Exactement.
Une négociation, c'est donnant-donnant. Hein.
Et ce point ne devrait même pas être discuté, puisque
je suis d'accord.
C'est de façon totalement, enfin je veux dire, c'est une situation totalement inique.
On a tout à perdre dans cette négociation.
Absolument. Il n'ouvre qu'à hauteur de 30%, et bien la France ne devrait avoir la question à poser à personne, et négocier avec personne, puisque c'est 30% chez eux, ça devrait être 30% chez
bien, merci Laure, alors, merci. Allez-y, ma chère Laure.
Une petite observation.
Oui.
Nous parlons d'économie, de redécoupage de régions, et je trouve ça très bien. Effectivement, nous avons des économies à faire de ce point de vue-là. Alors, ça n'est qu'un tout petit peu ironique, mais nous pourrions suggérer en France d'arriver à un ratio parlementaire habitant qui s'approche de celui de l'Allemagne ou des États-Unis, par exemple.
Mm-hmm.
Nous pourrions, je pense, diviser le nombre de nos parlementaires par deux, voire trois au moins, et ça signifierait une sacrée économie. Bien sûr, je pense qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied tout de suite.
Oui, moi ça, oh là là. Merci Laure, merci. Je suis obligé de vous couper, Laure, parce que j'ai beaucoup, et puis j'ai deux invités, vous savez, comme tous les jours, les Européennes, c'est dimanche. Nous serons avec Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte Ouvrière en Ile-de-France, qui sera là dans quelques minutes, et puis Véronique Vermorel, tête de liste du Parti Pirate en Ile-de-France. C'est aussi l'un des partis qui se présente aux Européennes. Mathieu est dans les Yvelines. Bonjour mon cher Mathieu.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous travaillez chez Canal, Mathieu?
Peut-être.
Nos amis de Canal, je dis ça, Mathieu,
non,
parce que ici, transparence. Moi, je suis, j'aime beaucoup Canal, donc Mathieu. Donc,
Non, je travaille pas chez Canal.
Ah
mais,
bon, d'accord. Bon.
Ce sont pas les meilleurs.
Bon.
Mais
vous travaillez chez Bein alors.
Peut-être. je voulais tout simplement revenir sur un point, c'est sur la diffusion de certains matchs du PSG ou d'autres en général en championnat. C'est Canal et Bein qu'avons les droits. On n'entend pas la ministre sur ce sujet-là.
Ouais.
Récemment aussi, on a
on
eu...
On n'entend sur rien, la ministre. Elle se mouille pas sur rien, remarquez.
Et on entend aussi, on n'a pas entendu le débat sur le fait que Canal rachète les droits de la Formule 1.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Avant, c'était sur TF1, et voilà. Bon, je pense que après, il y a une ligne politique sur chacune des chaînes, et qu'il faut la respecter. Aujourd'hui, c'est pas parce que Bein ça appartient au Qatar que tout devient payant. Il faut savoir que quand même Bein est un prix très attractif par rapport à Canal. Bon, après j'ai pas fait la pub pour Bein, mais voilà, tout simplement que Bein aujourd'hui propose un panel de services au niveau du sport qui est vraiment hallucinant. Canal aussi propose des beaux matchs. Je peux vous dire avec la speeder la speeder caméra au-dessus quand on est au Parc des Princes, c'est vraiment très impressionnant quand on est à la télé. Mais voilà, tout simplement dire que voilà.
Moi je trouve que c'est un faux débat aussi. Je suis assez d'accord avec vous, Mathieu.
Oui, c'est un faux débat. De toute façon, aujourd'hui, pourquoi on peut aller acheter une voiture chez l'autre?
Ça ne prend jamais aucun risque. Non, ça c'est sûr. Là, quand je l'invite. D'ailleurs, tiens, je vais vous lire. Ça va vous amuser, vous, Mathieu. Enfin, je ne sais pas. J'ai Yannick qui nous dit, moi, je ne pourrais pas supporter une troisième venue de Najat chez vous. C'est insupportable. Je serais obligé de zapper, d'écouter Fun Radio. Voilà ce que nous dit Yannick, est à Perpignan. Ben, ne vous inquiétez pas, Yannick, il n'y en aura pas de troisième venue. Voilà, je vous le dis parce que moi aussi, ça m'insupporte. Donc, merci Mathieu, dans tous les cas.
Rien.
Salut Mathieu. Merci, au revoir. Jérémy est étudiant dans l'Oise. Salut Jérémy.
Bonjour Jean-Jacques.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Mathieu, vous avez 21 ans.
Non, pas tout à fait en fait. Moi je voulais réagir au sujet que vous avez lancé, là c'est la diffusion des matchs.
Oui.
Moi je pense que les matchs devraient être diffusés gratuitement sur les chaînes pour plusieurs points, parce que déjà sur l'ensemble des sports qui sont télévisés, comme le tennis avec Roland Garros par exemple, les JO ou... d'autres sports, voilà. Que ce soit une petite affiche ou une grande affiche, tout est télévisé. Pourquoi est-ce que le sport surtout la Coupe du Monde, qui a une fois tous les 4 ans, serait elle bridée et pas diffusée à son
moment. Il n'y a qu'une chose que l'on peut contester, c'est qu'une grande chaîne comme TF1 achète les droits et revende les droits. Une partie des droits, c'est ça qui est pas tout à fait logique, me semble-t-il.
Oui.
C'est que si on achète les droits, on diffuse. Et voilà, on diffuse comme TF1 a la chance d'avoir plusieurs. Je dis bien plusieurs autres chaînes de télévision, hein, TF1 pourrait peut-être
Voilà, c'est pour ça je trouve ça un peu dommage que tout ne soit pas diffusé.
La TNT ça sert à quelque chose, hein, gratuite.
Oui, voilà, et c'est quand même, en plus c'est un événement suivi par tout le monde, c'est pas non plus que les fans de foot qui suivent la Coupe du Monde, c'est un événement de tout le monde, donc ça fait partie aussi de la...
Cela dit, c'est en Grande-Bretagne, c'est la BBC et ITV hein, qui vont retransmettre.
D'accord.
Gratuit.
Très bien.
Merci Jérémy. Eh ben salut, merci Jérémy, bonne journée. Allez, nous allons passer à notre rendez-vous quotidien, vous savez, celles et ceux qu'on entend peu ou pas à propos de ces européennes et qui sont là tous les matins entre 10h moins le quart et 10h. Dans un instant, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, tête de liste aux européennes en Île-de-France, et Véronique Vermorel, tête de liste du Parti pirate en Île-de-France.
Charles, je vous rappelle qu'on vote dimanche les élections européennes, et cette remarque tient de Joël qui dit les politiciens en France s'en prennent en permanence à l'Allemagne ou à l'euro, mais jamais à eux-mêmes. C'est tout de même eux qui ont fait cette Europe dont ils se plaignent aujourd'hui, jamais responsables. Voilà ce que nous écrit Joël. Vous aussi, vous pouvez venir participer au débat jusqu'à 10h, 32-16, rmc.fr et Bourdin Direct sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment les fraudes des opticiens qui proposent aux clients de tricher pour optimiser leur remboursement de mutuelle. J'ai le témoignage de Jean qui nous dit « Moi-même opticien, je ne peux que comprendre l'indignation lorsque l'on découvre ce type de magouille. Je veux juste rappeler que pour mettre en place cette fraude, il faut être deux. » Un qui propose, l'opticien, mais surtout un second qui accepte le client. Résultat, toute une profession discréditée pour une minorité de fraudeurs et des assurés qui payent pour ceux qui fraudent. Le pire, c'est qu'avec ce type d'enquête, je vais avoir une recrudescence de demandes de fraude. Voilà ce que nous écrit Jean. Et puis ce débat autour de la diffusion payante de certains matchs de la Coupe du Monde de foot. Kiri nous dit, il est tout à fait normal que tous les matchs diffusés sur les chaînes payantes ne le soient pas sur les chaînes gratuites. Si on aime le foot, on le regarde et on l'admire. Et à l'inverse, Nicolas nous dit, on subit encore, hélas, le pouvoir de l'argent. Cela devait être une fête mondiale au travers du foot, où chaque citoyen aurait pu voir le monde à travers les équipes nationales de chaque pays. Mais non, il n'en est rien. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de match. Vive l'esprit sportif, nous écrit Nicolas.
RMC Européenne 2014.
Il est 9h48. Deux invités. Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Tête de liste Lutte ouvrière en Île-de-France. Et je suis aussi avec Véronique Vermorel.
Bonjour. Bonjour.
Tête de liste du Parti pirate en Île-de-France. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiante en école de commerce. Nathalie Arthaud, on vous entend peu parce qu'on vous donne peu la parole. N'y a-t-il pas un peu trop de listes? Tiens, j'en parlerai tout à l'heure dans ces européennes, parce que c'est un casse-tête pour tout le monde, non?
Vous pensez peut-être que les électeurs ne doivent avoir la possibilité que de voter pour les grands candidats. Mais écoutez, c'est pas notre cas. Nous pensons que tout le monde doit s'exprimer, et en particulier que les travailleurs, les chômeurs, les retraités doivent dire leur colère face à cette politique gouvernementale, et nous espérons qu'ils la diront avec le bulletin Lutte ouvrière.
Alors, justement, pour vous, c'est un vote anti-gouvernemental qu'il faut exprimer.
Je crois que la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est une provocation contre les classes populaires, parce que prendre 50 milliards dans nos poches à nous tous pour aller les donner directement à ce patronat qu'on voit en train d'ailleurs de manœuvrer à coups de dizaines, de centaines de milliards pour se racheter les uns aux les autres, c'est de la provocation. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, le monde du travail, eh bien, il subit le chômage, les bas salaires. Donc, il faut répondre à cette provocation. C'est effectivement l'occasion. Et c'est l'occasion, encore une fois, je crois, moi aussi, de rejeter tous les autres politiciens qui sont pour nous interchangeables, et nous mettons dans le lot le Front National. Et c'est encore une fois l'occasion de mettre en avant les exigences des travailleurs, c'est-à-dire l'interdiction des licenciements, qu'on se répartisse le travail entre tous, parce que ce chômage de masse, la société, elle est en train d'en crever. Voilà. Et c'est aussi l'occasion de dire, eh ben, ce qui est vital, ça serait l'augmentation des salaires, l'augmentation du pouvoir d'achat, des pensions de retraite. C'est ça dont nos vies dépendent tous. Eh bien, il n'y a pas de raison. Nous entendons beaucoup les gens dire, ah ben, on nous oublie, hein, on parle pas de nos problèmes. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit, qui ne dit mot consent. Eh bien, il faut montrer, et les élections, c'est une occasion, que nous ne sommes pas consentants et que nous avons aussi des revendications, les travailleurs, les classes populaires. Et ces revendications, eh bien, c'est ça, c'est l'augmentation des salaires, du pouvoir d'achat, et qu'on arrête avec ce chômage.
Interdiction
de
licenciement, donc, augmentation des salaires, du pouvoir d'achat, donc, interdiction des licenciements. Hein. Vous dites, par exemple, on devrait interdire à Bouygues de licencier peut-être éventuellement 2000 salariés dans son secteur des télécoms.
Mais c'est une évidence pour nous. C'est une évidence qu'une société normalement constituée, elle devrait commencer par sauver effectivement les emplois.
Et dans l'affaire Alstom, que devrait faire l'État?
Ce que je constate, c'est que l'État, il envisage tout un tas de choses, sauf cette unique idée de dire on va bloquer les suppressions d'emplois, parce que ce soit avec General Electric ou que ce soit avec Siemens, regardez la casse sociale qui est prévue. Alors voyez, Montebourg dit on va bloquer les investissements étrangers, mais bloquer les licenciements, ça fait pas partie de ses perspectives. Eh bien, nous disons au travers, ça doit être les nôtres perspectives, et il faut absolument qu'on le mette en avant à toutes les occasions.
Oui, sortir de l'euro. Vous n'êtes pas contre l'euro, Nathalie Arthaud?
Écoutez, honnêtement, je trouve qu'un salaire, même libellé en francs, et qui est insuffisant, qui ne permet pas de payer les factures, c'est pas mieux. Donc, voyez, le problème, c'est pas ça. C'est pas le sigle monétaire. C'est pas ça le problème. Mais moi, je crois qu'effectivement, tous ceux qui opposent le franc à l'euro le font pour ne pas avoir à se positionner sur le niveau des salaires qui sont trop bas. Et nous disons augmentation de salaire. Que les travailleurs ne se laissent pas trimballer par des faux débats.
Vous êtes le parti le plus pro-européen, puisque vous dites le plus pro-européen, je ne parle pas de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais le plus pro-européen, puisque vous dites, nous, on veut effacer les frontières, un seul et grand pays en Europe serait plus logique.
Écoutez, elles n'ont pas de sens, ces frontières. On n'est plus autant on se déplace plus en calèche. Hein. Oui. En quelques heures, on peut être à l'autre bout de l'Europe. Et d'ailleurs, on vit au rythme de ce qui se passe en Europe. Des inondations, de l'explosion, y compris de la mine à Soma. Donc, et les liens, ils sont là. L'économie, elle est à cette échelle-là. Et en réalité, même, elle est à l'échelle du monde. Donc, la réalité, c'est qu'il faudrait que les travailleurs, ils aient le droit, effectivement, de se déplacer, de circuler. Qu'ils aient les mêmes droits aussi, les mêmes salaires, à l'échelle de toute l'Europe, depuis bien longtemps. Mais c'est une évidence que c'est pas ça qu'ils sont en train de faire, eux, avec les institutions européennes. Leur seul souci, ce sont les affaires, c'est leur business, c'est leur commerce.
Et le parti pirate, bonjour.
Bonjour.
Donc Véronique Vermorel, vous pensez de... Le parti pirate a été créé en Suède, en 2006, c'est bien
créé,
ça
Plus précisément, je dirais qu'il a été créé sur la toile, parce que finalement, c'est ça qui va influencer le plus notre parti, puisque justement, vous dites que la lutte ouvrière, le parti le plus européen, alors pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens au parti pirate, et notamment moi, qui seraient contre. Au contraire, même, j'ai envie de dire, non seulement les frontières n'ont pas de sens pour nous, justement, du fait sans doute qu'on est né sur Internet, que Internet n'a pas de frontières. Oui. Et d'autre part, notre programme, on l'a établi avec tous les partis pirates d'Europe. On s'est d'abord concerté, on a d'abord construit notre programme avec d'autres pays européens avant de le proposer dans nos antennes nationales.
Donc c'est un programme européen, vous.
Voilà, et un programme européen pour une Europe unie, sans frontières, effectivement, avec... Ouais.
Vous dites, notre programme, je résume, hein, vous allez ajouter, vous allez corriger si je dis des bêtises, il s'agit d'assurer le respect de la vie privée de chacun, interdiction de la surveillance de masse, tout ça c'est Internet, hein, on est bien d'accord, tous
pas
les réseaux sociaux, pas qu'Internet.
C'est aussi les caméras de surveillance dans la rue.
Caméras de surveillance, bon. Interdire la récolte des données biométriques.
Tout à fait.
Absolument contre. Accueillir Edward Snowden en France en lui accordant l'asile politique en tant que lanceur d'alerte.
Voilà. Hein, ça fait partie d'un pan de défendre et conquérir des libertés fondamentales, dont la vie privée, dont la liberté d'expression, toutes ces choses-là qui sont un peu oubliées en ce moment.
Participation plus directe des citoyens à la vie politique, notamment en organisant des référendums sur Internet.
Tout à fait. En fait, c'est la façon dont on fonctionne déjà au sein du Parti Pirate. On a une plateforme de démocratie liquide. Donc c'est de la démocratie directe en fait. Il y a des propositions qui sont faites par n'importe qui. Ça peut être par exemple par des élus qui ont quelque chose à voter. Et il y a un système de débat sur forum et ensuite un système de vote assez simple pour dire dans quelle direction on veut que tel amendement soit pris.
Des votations sur Internet. Quoi.
C'est ça, parce qu'en fait les nouvelles technologies permettent justement ce renouveau de la démocratie avec un système de procuration simplifiée, évidemment, parce qu'on n'est pas tous experts dans tous les domaines. Et justement, en fait, au Parti Pirate, on a foi dans le fait que les nouvelles technologies peuvent vraiment apporter ce renouveau à la démocratie, parce que, clairement, on fait actuellement la politique comme avant l'invention du téléphone, il est temps que ça change.
Oui, parce que le Parti Pirate qui a réussi une percée en Allemagne. Hein.
Et une percée en Allemagne, une percée en Suède, on a quand même 2 eurodéputés pirates actuellement, ouais. Ils sont suédois, ils font un travail fantastique. Amelia Underwater a réussi à faire passer la neutralité du net quasiment à elle seule avec 0,27% des voix. Ils ont aussi lutté contre ACTA. Enfin, ils travaillent. Et
vous êtes contre vous aussi ce... Ah tiens, je vais vous poser la question. Vous êtes contre vous cette négociation
DAFTA on est contre. C'est un scandale.
Et les États-Unis, c'est un scandale.
C'est un traité international qui nous touche tous, qui a été négocié par des non-élus, la Commission européenne, en toute opacité. Ça a des conséquences écologiques, économiques, sociales, dramatiques pour l'Europe. Et tout ça,
c'est antidémocratique. Vous êtes d'accord, nous.
Écoutez, d'abord,
vous êtes pour ou contre cette
négociation? Moi, je pense qu'il faut dénoncer tout ce que les multinationales manigancent derrière notre dos. Ça, c'est évident. Bon, elles vont pas. C'est leur profit d'abord et avant tout. Ils sont prêts à nous faire avaler n'importe quoi. Et puis, bon, regardez comment y compris ils traitent les travailleurs à l'échelle du monde. Hein, ces multinationales. Donc, bien sûr, nous les dénonçons. Mais c'est pas ce traité particulier et en particulier. Enfin, nous, c'est pas les échanges de marchandises, d'idées, de technologies qui nous semblent être un danger. Non, pour nous le danger, c'est que justement c'est dans les mains de multinationales qui ne jurent que par l'argent, qui sont prêts à aller exploiter les ouvrières du Bangladesh comme les travailleurs d'ici. D'ailleurs, multinationales qui tiennent le même discours. Regardez comment ce qu'ils disent aujourd'hui aux travailleurs en France. Oh, travailler 35 heures, c'est pas suffisant. Il va falloir monter 45 heures par semaine. Ils nous expliquent que le SMIC c'est trop, qu'il faut peut-être penser à toucher un petit peu moins que le SMIC, d'abord pour les jeunes, puis après pour tout le monde. Donc on voilà sur quelle pente ils veulent nous emmener, ces multinationales. Mais encore une fois, nous, c'est pas le problème des échanges, et c'est pas le problème de hisser le pavillon français sur le toit des usines, hein, parce que vous savez, ça protège de rien. Ni des bas salaires, ni des licenciements. Donc il faut pas se tromper effectivement de problèmes. Et c'est pour ça que nous dans cette histoire et dans ce débat là, c'est pas nous ne sommes pas pour le retour des frontières. Nous ne sommes pas pour opposer l'Europe et la France. Le problème c'est l'ordre économique.
Oui,
c'est le capitalisme dans lequel nous sommes.
La révolution doit être européenne et même mondiale.
Bah écoutez, quand on voit Pfizer, il met sur la table. Vous rendez compte, 100 milliards.
Oui.
Pour racheter AstraZeneca, 100 milliards. Et ils vont nous dire qu'ils n'ont pas de quoi augmenter les salaires, embaucher. Voilà la société délirante dans laquelle nous sommes.
Bon, dernière chose, Véronique Vermorel. Bon, très bien, vous êtes démocratie sur Internet, etc., etc., les réseaux sociaux, développement des réseaux sociaux, mais c'est un capitalisme échevelé aussi, ce monde-là. Non.
Capitalisme qu'on veut effectivement contrôler, donc on est un peu moins...
Les hommes les plus riches de la planète maintenant sont des hommes issus de ce monde des nouvelles technologies.
Bah, les nouvelles technologies, c'est clairement un marché porteur. Alors oui, effectivement, mais c'est aussi un marché qui va créer de l'emploi. Nous, notre but, c'est aussi en termes d'économie de tourner l'Europe vers ses entrepreneurs. Actuellement, les subventions qu'elle donne sont inefficaces, qu'elles arrivent 3 ans après le début de l'investissement. Nous, on veut qu'elles arrivent en amont et surtout qu'elles aillent dans des secteurs qui soient porteurs, les nouvelles technologies, les nouvelles énergies. Et tout ça en taxant au contraire les marchés financiers spéculatifs où la spéculation est particulièrement dangereuse, à savoir l'agroalimentaire, à savoir la pharmacie, l'énergie. Parce que voilà, une bulle s'il y a une bulle sur le riz...
Les nouvelles technologies on peut les taxer. Hein.
Mais les nouvelles technologies ne créent pas des bulles qui vont être...
Parfois les grandes sociétés ne paient pas d'impôts, par exemple en France.
Mais ça, c'est autre chose.
Google ou autre.
Ça, c'est autre chose.
Je vous arrête. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir ce matin. Merci vraiment. Il est presque 10h. On se retrouvera demain, 6h-10h, à demain.